Pierre Franco à Lourdes, c'est un nom bien connu. Vous venez de prendre une retraite après de très longues années professionnelles très actives. Alors racontez-nous, vous avez passé la main?
Oui, j'ai passé la main depuis cette année. Donc, effectivement, j'ai cédé mes parts en fin septembre 2012 à Monsieur Rémy Arnoux de Sartre. Et bon, après 42 ans passés au sein de l'entreprise, dont je suis PDG depuis 1900, ou j'étais PDG du moins depuis 1985.
Alors, cette entreprise, elle est née, c'est votre grand-père qui l'avait fondée.
Exactement, en fait, c'est une entreprise familiale, oui, mais au départ, c'était uniquement une charcuterie industrielle. Mon grand-père est lorrain d'origine, est arrivé à Lourdes entre les deux guerres, parce qu'il avait fui, la montée du nazisme de la Lorraine, donc il s'était installé à Lourdes. Et il avait une charcuterie rue Laffitte. Et ensuite, il a monté une charcuterie industrielle à l'emplacement même de l'usine. Et c'est mon père, après la guerre, qui a développé le secteur conserve, en commençant à livrer des boîtes à l'armée française qui était en Algérie.
Par la suite, votre entreprise a pris un essor et s'est internationalisée.
Oui, de suite. Dans les années 60-62, il y a eu des premiers contacts, notamment avec des clients grecs, et on a démarré l'exportation vers la Grèce à ce moment-là. Et petit à petit, disons, l'entreprise s'est fait une place à l'international, puisque le produit que nous fabriquons, qui est du corned beef, est un produit international qu'on peut trouver dans tous les magasins au monde.
Quels sont les principaux clients?
Alors, les principaux clients, à part certaines administrations, c'est surtout de la clientèle privée. Nous, nos clients ne sont c'est pas le consommateur privé en définitive, c'est l'importateur-distributeur. Nous avons également des clients en France. Nous travaillons avec la grande distribution, on travaille avec Auchan, on travaille avec Leader Price, les Leclerc, etc., quoi, hein, on travaille, mais c'est 20% marché français, 80% export, et ça depuis de nombreuses années.
Vous avez traversé des décennies et vous êtes heurté aussi à des problèmes, comme par exemple la vache folle. Comment vous avez traversé cette période difficile?
Ben d'abord, j'ai un tempérament optimiste, donc je l'ai traversé un peu difficilement, mais toujours en regardant vers l'avenir. Effectivement, en 2001, il y a eu une grosse crise après la vache folle. Tous les pays se fermaient les uns après les autres, à l'exception de l'Europe, sur laquelle on n'était pas trop. Ce qui fait que au mois de juin de 2001, on avait perdu 70% de notre chiffre d'affaires, ce qui est énorme pour l'entreprise. Et à force de batailler, de voyager, d'aller rencontrer les vétérinaires dans les pays extérieurs, et notamment à l'Afrique, d'essayer de les convaincre avec l'appui des vétérinaires français, qui ont fait un travail remarquable d'ailleurs à ce niveau-là et à cette époque-là, on a réussi à faire ouvrir des frontières ou réouvrir des frontières. Et à la fin de l'année 2001, on avait un bilan qui était quasiment équilibré malgré la perte de chiffre d'affaires du mois de juin.
Alors, quelques années plus tard, c'est la crise mondiale qui vous frappe.
Ben, la crise mondiale, j'ai été surpris par cette crise parce que je ne pensais pas que cette crise interviendrait sur les pays tiers qui sont c'était loin, quoi. Pour moi, la crise ne devait pas être présente sur ces marchés-là. Et au contraire, ça a été les premiers pays touchés, notamment tous nos gros pays clients comme le Congo Brazza, le Congo Kinshasa, le Gabon, etc., l'Angola, il n'y avait plus de commandes. Ce qui fait que fin 2009, on avait perdu grosso modo la moitié du chiffre d'affaires, mais on n'avait pas perdu de clients, c'est-à-dire on avait perdu du volume.
Le commercial que vous étiez, s'est multiplié.
Oui, on a fait comme on a pu. Effectivement, on a fait feu de tout bois. Et bon, avec l'appui de mon staff commercial, on n'est pas nombreux chez nous. Je suis le commercial, si vous voulez, mais j'ai des secrétaires qui travaillent bien aussi. On a passé des milliers de mails, des coups de téléphone pour essayer de récupérer des commandes. On a fait des efforts sur les qualités, on a fait des efforts sur les produits, on a imaginé des produits mais bon marché, puisque en fait, on est concurrencé par un prix et pas par un produit. Par exemple, sur l'Afrique, notre concurrent n'est pas le corned beef, notre concurrent est la sardine. Pourquoi? Parce que ce sont des prix à peu près équivalents. Et quand le client a de l'argent, si la sardine est moins chère, il achète de la sardine. Voilà. Donc, on a imaginé des produits bien meilleur marché, à base de poulet, des choses comme ça, pour essayer de revenir. En 2009, donc fin 2009, on avait perdu beaucoup d'argent. On a perdu, je crois, 1,3 million. 2010, on a perdu autant d'argent, mais à la moitié de 2010, c'est-à-dire à partir de fin juin 2010, on ne perdait plus d'argent. C'est-à-dire que tout ce qui a été perdu en 2010 a été dans le premier semestre. Et ensuite, les marchés sont revenus petit à petit, nos marchés traditionnels. Et en parallèle, il y a eu un phénomène qui s'est passé, c'est que notre principal concurrent est le Brésil. Les principales usines de Cornif sont au Brésil, il n'y en a pas d'autres. Hein. Et le Brésil a eu des problèmes de. Il y a eu de l'embargo, il y a eu des problèmes intérieurs au pays, il y a eu des quotas d'exportation. Le Brésil n'a plus livré l'Europe, ce qui nous a permis de récupérer quelques marchés européens, et notamment le marché anglais. On a eu quelques approches début 2010 grâce à des clients qui étaient situés en Belgique et ça s'est accentué durant toute l'année 2010 ou le deuxième semestre et tout 2011 et ben, 2012 aussi également.
Dans la période de crise, Pierre Fanco, comment le personnel a réagi?
Ben, on a du personnel qui est assez ancien et qui est dans l'entreprise donc depuis des dizaines d'années. Pour beaucoup d'entre eux, ils avaient déjà connu la crise de 2001. Ils ont vu que, bon, je gardais toujours un certain optimisme, hein, c'est ma nature. Mais ce coup-ci, ça a duré un peu. Mais le personnel a été remarquable en tout point de vue. Franchement, j'ai eu aucun problème. Ils ne sont jamais montés au bureau pour me faire part de leur inquiétude. Or, je savais qu'ils étaient inquiets. J'essayais, et Rémi aussi essayait d'être rassurant, notamment dans la deuxième partie de l'année difficile, où tout revenait pour leur dire que tout allait bien se passer. Et tout s'est bien passé. Ça a continué.
Donc vous arriviez presque à la retraite, vous avez cherché quelqu'un pour vous succéder. Dans la famille, il n'y avait personne?
Non, dans la famille, il n'y a personne, mais il faut savoir qu'il y a un petit moment que je cherche à vendre, sachant qu'il n'y avait pas de repreneur. Et j'avais été approché par certaines entreprises européennes qui ont des activités similaires. Alors, je peux en citer, je ne sais pas si je peux les citer, s'il y avait Inalca en Italie, Vanderlande en Hollande, qui sont venus. On a été très loin dans les approches. J'étais prêt à signer des contrats. J'ai même été à la Tour Société Générale à Paris pour finaliser un contrat. Mais au moment de signer, les deux sociétés d'ailleurs m'ont dit, bon, écoutez, non, on vous rachète pour fermer. Donc je n'étais évidemment pas perdant, parce que c'était une bonne période, mais je ne voulais absolument pas que l'entreprise de Tourpenaud disparaisse. Donc j'ai refusé la vente, je n'étais pas très content, mais j'ai refusé la vente.
Ensuite est arrivé donc celui qui a actuellement en charge la société.
Absolument. Donc, ben Rémi, je ne le connaissais pas. Mon directeur général, Claude Lédé, devait partir à la retraite. Et Rémi travaillait chez KPMG, qui est une entreprise de comptabilité, d'expertise comptable, qui sont nos experts comptables. Donc, est venu me voir. Je ne le connaissais pas plus que ça. Il m'a dit, écoutez, monsieur Franco, si vous voulez, moi, je suis intéressé pour prendre la place de monsieur Lédé. J'étais très étonné parce que je n'avais pas besoin d'un expert comptable ayant déjà ce qu'il fallait à la maison. Mais il m'a dit, mais oui, mais je suis expert comptable et également ingénieur agro. Bon, mais écoutez, on va voir. J'en ai parlé à M. Salle, le directeur de KPMG, qui était un petit peu embêté, mais qui m'a dit, écoute, Pierre, si tu veux, il va te rendre beaucoup de services, tu peux le tester. C'est ce que j'ai fait. On a testé plusieurs personnes et ça a été le. Il a été sélectionné, oui, effectivement, il a été recruté. Parce que ça a été le meilleur.
Alors par la suite, vous l'avez accompagné dans sa démarche?
Ah, mais je l'ai accompagné jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ma retraite définitive, c'est-à-dire au 31-12-2012. En fait, ce n'était pas une retraite, puisque j'étais déjà à la retraite depuis 2 ans. J'accompagne l'entreprise tout en étant à la retraite. Mais oui, bien sûr, j'ai la connaissance des clients. Il a pris connaissance, lui, de tous mes clients. Il les a rencontrés, donc il a bien fallu transmettre. Et la transmission s'est faite comme ça, en fait.
Alors, par la suite, dans ces 2 dernières années, cela s'est conclu par un prix, le prix Ulysse. Je pense que vous l'avez un peu aidé.
Bah, le prix Ulysse, bon, d'abord c'est lui qui a présenté le dossier, hein, parce c'est quand même le repreneur. Donc le prix Ulysse est destiné aux repreneurs et aux retournements d'entreprise. Bah, je l'ai aidé effectivement, parce que je l'ai accompagné, mais je suis resté effectivement jusqu'au bout.
Le prix Ulysse, qu'est-ce que c'est en quelque
sorte ? Ben, c'est un prix qui est donné par le ministre du... comment on appelle ça ?
Redressement
productif, pour le meilleur retournement d'entreprise, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, on n'était pas très bien, et que grâce notamment au marché commun et puis à la conjoncture du Brésil qui ne livrait plus, on a pu revenir sur des chiffres d'affaires antérieurs et même au-delà des chiffres d'affaires antérieurs, puisqu'à ma connaissance, le meilleur chiffre d'affaires que nous ayons fait dans le passé était de 27 millions d'euros, et là, cette année, on sera à 30.
Maintenant, vous voilà en retraite, donc, et enfin, même si vous l'aviez depuis 2 ans, mais vous étiez actif.
Oui, j'étais actif, oui.
Là. Je vous ai connu avec d'autres casquettes, président du Football Club Lourdes entre 92 et 95, un Football Club Lourdes qui actuellement ne se porte pas très bien. Quel regard vous portez dessus ?
D'abord, un regard attristé parce que... Il semblerait, et je regarde ça de très loin, hein, il semblerait qu'il y ait une guerre de clans. Et que les gens ne se parlent pas. Or, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il y a des compétences de tous les côtés et que ça serait mieux de cumuler les compétences plutôt que de se tirer dans les pattes, on dirait du copé Fillon. Quoi. Et c'est pas très plaisant.
Est-ce que vous avez participé aux dernières réunions, non ?
Non, pas du tout. J'ai reçu encore une demande pour une réunion du 11 février, mais je ne suis pas au comité directeur, donc je n'ai pas à y aller. Et ça m'est difficile de prendre parti actuellement. Je préférerais qu'il y ait une table ronde dans laquelle je me propose d'agir en tant que médiateur ou un des médiateurs avec plusieurs personnes.
Eh bien, merci.
Ben, je vous en prie. Et puis, voilà, vous me reverrez de toute façon dans les tribunes, quoi qu'il se passe.